Je parlais tout à l'heure de Mme Casgrain. Donc, ça fait partie de, d'une des pages web que le Centre d'histoire de Montréal a publié récemment. Il est question aussi d'une autre syndicaliste, Idola Saint-Jean. Et donc, ces deux femmes-là ont eu des émissions à la radio québécoise. Et pour ce qui est du droit de vote des femmes, on peut voir comment Mme Casgrain a dû se battre contre les institutions en place, notamment le clergé, pour faire avancer la cause du droit de vote. Alors, Mariana.
Les femmes militent dans les syndicats et elles sont nombreuses à réclamer le droit de vote au provincial, comme il a été obtenu au niveau fédéral à la faveur de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement Godbout fait adopter en 1940 une loi qui permet aux femmes de voter aux élections provinciales malgré l'opposition ou les réserves d'une partie du clergé.
Bien, la plupart des gens du clergé étaient contre, et il y avait des femmes qui étaient contre nous. Et j'ai toujours eu l'impression que celles qui étaient le plus contre nous devaient être probablement poussées par certains membres du clergé. Parce que si vous relisez les journaux de l'époque, vous voyez très bien ce qui se passait. Et je me souviens très bien des objections du cardinal Villeneuve.
Madame Thérèse Casgrain, que l'on vient d'entendre, est une féministe de la première heure. Une femme extrêmement active qui fera de la politique et sera même, pendant quelques années, chef au Québec du Parti social-démocratique, ancêtre du NPD, et qui sera nommée sénateur en 1970. Elle était au premier rang de ces femmes qui, pendant de nombreuses années, firent des démarches à l'Assemblée législative du Québec pour obtenir l'extension du droit de vote aux femmes. Une fois ce droit obtenu, encore fallait-il convaincre les femmes de l'exercer.
So that is why it took so long for women to vote in Quebec?
Et, oui, Mme Casgrain parlait du cardinal Villeneuve. Sa lettre qu'il a envoyée au mois de mars 1940 était assez courte. Je pense que ça vaut la peine que je mentionne les principaux passages. Donc, il dit « Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin. Un, parce qu'il va à l'encontre de l'unité de la hiérarchie familiale. Deux, parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l'électoralisme. Trois, parce que, en fait, il nous apparaît que la très grande majorité des femmes de la province ne le désirent pas. Et quatre, parce que les réformes sociales, économiques, hygiéniques, etc., que l'on avance pour préconiser le droit de suffrage chez les femmes peuvent être aussi bien obtenues grâce à l'influence des organisations féminines en marge de la politique. » Donc, il publie une lettre comme ça et il dit « Tous les évêques sont derrière moi et il n'y a pas lieu de donner le droit de vote. » Malgré tout, le gouvernement Godbout va octroyer le droit de vote en 1940. On a un autre extrait qui démontre un petit peu comment il fallait donc sensibiliser les femmes à l'importance d'exercer le droit de vote. C'est un ton qu'on n'utiliserait probablement pas aujourd'hui, mais je pense que ça reflète bien la situation de l'époque.
Les féministes utiliseront la radio pour véhiculer leur propagande. En prévision de l'élection complémentaire dans Montréal-Saint-Jacques, Juliette Béliveau incite les auditrices de l'émission Fémina à se procurer leur carte d'électrice. Nous sommes le 26 novembre 1941.
Mademoiselle Hélène veut voter aux prochaines élections à Québec. Au moins, j'y vais pas.
Vous voulez pas aller voter? Pourquoi?
Bon, que ça va faire un vote de plus.
Il y a à peu près dans la province autant de femmes que d'hommes, pensez pas?
Sans les compter, je pense que oui.
Bon, si chaque femme dit la même chose, les hommes choisiront seuls les députés? Madame du Devoir, vous n'aimez pas Hitler et les dictatures,
hein? Oh, lui, si je le lève entre les mains, je vous dis qu'il perdra sa moustache puis qu'il passera dans le tordeur avant de crier ciseaux.
Bon, ce qui distingue les démocraties des dictatures, c'est précisément ce droit de vote qu'exercent les citoyens. Ce droit qu'ils ont de nommer eux-mêmes leur chef.
Oh, écoutez donc, savez-vous que c'est la première fois que je comprends un peu pourquoi c'est fait qu'on vote?
C'est trop important. Vous n'avez pas d'excuse de ne pas voter. D'autant plus que c'est la première fois. Vous entendez? Première fois que les femmes voteront dans la province de Québec aux élections prochaines. Ouais. Vous trouvez pas que ce droit de vote vous donne de l'importance?
C'est vrai, ça! Puis je comprends de plus en plus. Je veux voter, puis j'irai donner mon nom.
Allez-y le plus tôt possible. Après cette semaine, il sera trop tard. Les bureaux fermeront le 29 novembre.
Ah, mon Dieu! Si j'avais su ça plus vite, il y a longtemps que j'aurais ma carte comme mon mari. Puis si je peux l'avoir, je vous dis que je suis pas prête à la perdre.
Quoi?
La carte.
Je Alors, pendant le clip, on voyait aussi, évidemment, ça se passe pendant la guerre, donc l'importance de voter pour éviter des situations comme en Allemagne, tout ça, et même si la dame dit « mais c'est juste un vote de plus », mais l'animateur lui explique que c'est l'ensemble des gens qui doivent voter pour choisir les représentants dans une démocratie.
You're listening to CKUT. This is Radio 100.
No Hay Banda presents its next show on Monday, March 9th at La Sala Rosa in co-production with Innovation en Concert. The opening set features Bahram Sarkissian, the incredible Armenian experimental vocalist and composer based in Montreal. This will be followed by the performance of two new works for amplified quartet and electronics, written for No Hay Banda by Vancouver-based composers Sabrina Schroeder and Mauricio Pauli. These will be performed by Genevieve Liboiron on violin, Joshua Hyde on saxophone, Noam Birston on percussion, and Daniel Agnes on piano, modular synthesizers, and on Martenot. No Hay Banda season is co-presented by Suoni per il Popolo and CKUT, with various concerts throughout the year. Tickets are $12 through the Sony website and at the door. Monday, March 9th, doors 8 p.m., show 8:30 at La Sala Rosa. More info on Facebook and at noaibanda.ca.
Whose data? Our data. When you're not paying for a product, you are the product. Especially in web and email services, where multinationals compete to manage your communication so they can make a profit off of the private communication you are producing. Kumbit is a worker cooperative trying to help small organizations or individuals get their email, website creation, and website hosting services off corporate services such as Google. For more information, contact us at kumbit.org or email at info@kumbit.org. That's K-O-U-M-B-I-T. We are not on Facebook.